Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, peut-on débattre sans limite ? Pour moi, il n'y a pas de questions interdites. Nous ne serons pas d'accord sur tout, c'est normal, c'est la démocratie. Mais au moins, montrerons-nous que nous sommes un peuple qui n'a pas peur de parler, d'échanger, de débattre. C'est ce qu'écrit Emmanuel Macron aux Françaises et aux Français dans la lettre de cadrage du grand débat national qui doit débuter demain. Pas de questions interdites, donc, pour autant, et on peut y voir une contradiction, ce débat ne sera pas ouvert à tous les vents. 4 sujets ont été définis, des questions sont proposées par le chef de l'État, et des limites sont fixées. Pas question, par exemple, de revenir sur des lois votées sous le quinquennat. Ni sous le précédent, d'ailleurs, s'agissant de la loi sur le mariage pour tous, le gouvernement en a fait une des lignes rouges. Son abrogation arrive pourtant au premier rang des revendications de la consultation lancée en parallèle et en amont du grand débat par le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Or, ce résultat, la demande d'abrogation de la loi Taubira, démontre la capacité qu'ont certains groupes de pression à s'organiser et à privatiser les débats, mais il interroge aussi plus largement sur ce que doit être un débat, son objectif, son contenu et ses participants. Alors peut-on débattre sans limite ? Question que nous allons poser aujourd'hui à 2 philosophes, car s'il est une discipline qui interroge la notion de débat et qui l'utilise surtout, le débat, c'est bien la philosophie. Patrice Maniglier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense et directeur éditorial de la revue Les Temps Modernes. Et pour discuter avec vous, Raphaël Entehen, bonjour.
Bonjour Hervé.
Vous présentez l'émission Philosophie sur Arte depuis une dizaine d'années déjà. Et j'envoie votre dernier ouvrage publié l'an dernier aux éditions de l'Observatoire, Morale provisoire. Alors le but de cette émission n'est pas de vous interroger sur le fond de la lettre qu'a adressée Emmanuel Macron aux Françaises et aux Français, mais plutôt sur la forme et sur cette idée de faire un grand débat. Et la première question, elle est peut-être un petit peu générale, mais je vous la pose quand même. Ça sert à quoi de débattre, Raphaël Entehen ?
Ah, c'est fondamental, c'est le cœur de la démocratie de débattre. D'ailleurs, la démocratie fait grand cas des débats. Il y a tout le temps des débats, sauf que des vrais débats, il n'y en a pas beaucoup. Si on appelle débat un exercice auquel on s'est livré déjà souvent avec Patrice d'ailleurs, de libre contradiction, où l'enjeu c'est de partager un peu la rationalité et non pas d'avoir raison de l'autre, user de la raison et non pas s'en servir, si l'enjeu c'est ça, de vrais débats, il y en a très peu. Donc le paradoxe du débat, c'est que il n'y a pas de démocratie sans débat, il n'y a pas de démocratie sans cet effort réciproque qui consiste à écouter l'autre, et dans le même temps, la structure démocratique fait que souvent dans un débat, les gens qui viennent sont les représentants des gens qui pensent comme eux. Et que par conséquent, ils filent un discours et que ce discours n'est jamais exposé à la possibilité de sa réfutation. Donc le paradoxe en démocratie, c'est que le débat est indispensable et qu'il est très souvent impossible. Et je crois qu'on en a l'illustration ici, avec cette idée de grand débat. Mais on va en débattre.
On va voir si on aura aussi l'illustration dans le cadre de cette émission. Vous partagez en tout cas, vous, ce paradoxe, Patrice Maniglier ?
J'ai l'impression que, disons, on va un petit peu trop vite en disant que le débat est au cœur de la vie démocratique, parce qu'en fait, on mélange différents niveaux d'exercice du débat. Par exemple, on oublie que le débat est un rituel, en réalité. Et que, comme tout rituel, bon, bah, il a effectivement des formes. Et on l'imagine comme une sorte, effectivement, d'expression directe de... à la fois de la conflictualité des opinions et de la délibération, ce qui est une chose un tout petit peu différente finalement que le débat, parce que la délibération, c'est ce processus d'examen des raisons par lequel on aboutit à une décision, éventuellement d'ailleurs tout seul dans sa tête, et qui n'a pas nécessairement la structure d'un débat. Par exemple, si on veut prendre le rituel du débat dans sa forme la plus instituée, bon, bah, c'est le débat parlementaire. Là, on a effectivement une enceinte fermée, des groupes, des sujets discutés, des formats imposés. Et donc là, on peut effectivement parler d'une institution du débat. Quand on parle du débat public, on parle de quelque chose de beaucoup plus vague, en vérité, qui est une sorte de conversation, ce qui n'est pas la même chose qu'un débat, d'échanges de points de vue qui ne sont pas nécessairement contradictoires. Et surtout, c'est un peu une chose que disait Gilles Deleuze quand il disait, en fait, le débat est une forme complètement allergique à la philosophie, qui est un paradoxe, on a l'impression que la philosophie est liée au débat. Le problème du débat, c'est que très souvent, il occulte un travail essentiel de la rationalité, qui est la critique et la reconstruction des problèmes. On a un problème, on est pour ou on est contre, on doit donner des raisons pour et contre, mais est-ce qu'on peut discuter le problème ?
Mais ça veut dire que pour vous, le débat ne se conçoit que dans une forme de conflictualité. En tout cas, il y a une nécessaire contradiction. Sinon, il n'y a pas débat. On ne peut pas débattre entre gens qui partagent des avis assez proches.
Il me semble que ce ne serait pas un débat, effectivement. Ça, c'est une question de mots. Mais il me semble qu'un débat suppose, effectivement, qu'il y a deux positions au minimum différentes, idéalement opposées. Et donc, on peut donner des raisons pour, donner des raisons contre.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Raphaël Antonin ? Est-ce que ça veut dire que dans le cadre d'un grand débat national, on part forcément du principe, justement, qu'il y aura des pour et des contre ? Ou bien est-ce que les mots ont été mal choisis, peut-être ?
Ouais, la question du grand débat national, elle est fondamentale. J'y viens tout de suite. Juste parce que Patrice cite Deleuze. Et c'est vrai que dans Pourparler, Deleuze parle du débat comme d'une juxtaposition de monologues, en fait. Je parle, et puis après l'autre parle. Et en fait, quand je parle, évidemment, je n'écoute pas ce que l'autre dit. Je me contente de remplir mon temps de parole. Je ne dis que ce que je pense, et je suis imperméable aux objections de l'autre. Et c'est ce que Deleuze déplorait, justement, dans les débats. Et c'est très difficile de lui donner tort. Quand vous voyez Marine Le Pen débattre face à Emmanuel Macron, vous n'avez pas de débat, justement, dans ce grand débat. Maintenant, sur le grand débat lui-même, initié par le président de la République, il y a mille choses à dire sur la lettre elle-même. J'ai compris que c'était pas tellement le sujet du débat d'aujourd'hui. Mais au-delà de cette lettre, le grand débat, comme on l'appelle, me semble compliqué. Parce que si un débat, encore une fois, est une discussion entre gens de bonne volonté, on est ici en présence, je crois, du contraire. C'est-à-dire qu'on est ici en présence de gens qui ont décrété d'un côté la surdité gouvernementale et de l'autre côté un gouvernement qui a décrété que les propositions qui pouvaient émaner, enfin que l'enjeu était de neutraliser ces propositions en leur donnant audience avant de décider ce qu'on avait décidé au départ. Donc les conditions du débat ne sont pas réunies puisque aucune des deux instances disponibles n'est disposée elle-même à se remettre en cause, et je crois pas qu'il y ait débat sans cela.
Mais en même temps, quand on débat et quand on organise un débat, Raphaël Antovani, il y a bien la nécessité de cadrer un minimum, justement, les termes de ce débat, de dire de quoi on va parler, avec quel objectif, peut-être, et puis avec qui on va le faire.
Oui, mais alors la façon qu'a eu Emmanuel Macron de cadrer le débat, pardon, j'évoque la lettre quand même, mais c'est la façon qu'il a eu de cadrer le débat est très intéressante. Il a posé plus de 30 questions aux lecteurs de sa lettre, ce qui est formidable, mais c'est une position... Je peux raconter une anecdote.
Bien sûr.
C'est une anecdote, ça remonte à 1932. Raymond Aron, lecteur à Cologne et à Berlin, rentre à Paris un jour et il est reçu par Jean-Joseph Paganon, le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, dont le nom est resté dans l'histoire parce qu'il a rencontré Aron ce jour-là. Et il lui décrit les premiers autodafés en Allemagne. Et Paganon lui dit à ce moment-là, tout ça est très intéressant monsieur, bien sûr, mais que feriez-vous à ma place ? Et pour la première, la seule, la dernière fois de sa vie, Aron n'a pas su quoi répondre. Il savait pas quoi répondre à cette question-là. Et il s'est juré de ne plus jamais être dans cette position-là. Et il s'est donné pour principe à ce moment-là de toujours penser en se mettant à la place des gens qui gouvernent. Ce qu'on a voulu prendre pour une défense de l'ordre établi, alors que c'était une défense du réel, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on a les leviers en main ? Et c'est exactement dans cette position-là qu'Emmanuel Macron essaie d'installer les concitoyens. C'est-à-dire qu'il leur dit, voilà, pensez en vous mettant à la place de celui qui gouverne. Voilà les problèmes que pose telle demande, telle obtention de demande. Mettez-vous à ma place. En leur demandant cet effort-là, est-ce qu'il ne compromet pas justement le débat ? Je ne sais pas. Mais dans le meilleur des mondes, effectivement, les individus se saisissent de ces questions, se mettent à la place d'un président et proposent des choses que lui-même, dont lui-même n'a pas l'idée.
Patrice Meneglier ?
Oui, c'est vrai que, alors dans ce que vient dire Raphaël Antoine, il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes. Alors la première, c'est la question de savoir si le débat suppose la bonne volonté des débattants. Bon, alors si on fait cette supposition, évidemment, on peut pas avoir de débat public au sens général, puisque ça supposerait qu'il y ait une base de consensus. Et après tout, c'est un peu le titre de votre émission, peut-on débattre sans limite ? Et il faut accepter que justement, il n'y a aucun consensus, si on veut, disons, ouvrir le débat à tout le monde, laisser que ce soit justement un débat national. D'ailleurs, je remarque que dans le mot national, souvent, enfin, on entend la notion de citoyenneté. La citoyenneté est un titre juridique qui dépend de l'obtention d'une carte d'identité française. Là, il n'est pas, je ne sais pas qui peut participer au débat, les habitants ou uniquement les citoyens français. C'est une question intéressante quand même qu'il faudrait se poser. Mais toujours est-il qu'il y a une ouverture de l'adresse entièrement indéterminée qui est absolument nécessaire pour que, justement, vive ce qu'on appelle la vie démocratique. Donc, on peut pas supposer que les gens sont de bonne volonté. Il y a du dissensus. Et c'est la base. Et la deuxième chose qui me paraît importante, c'est que pour qu'il y ait un débat sérieux, il faut quand même que les parties s'engagent d'une manière ou d'une autre, ou soient, en fait, au fond, contraintes d'être dans la situation dans laquelle l'opinion de l'autre compte. Et ça, ça suppose un rapport de force. C'est plutôt une situation de type diplomatique. C'est-à-dire que si vous en avez un qui a tous les pouvoirs d'un côté et de l'autre côté, l'autre qui n'a aucun pouvoir...
Hormis celui de lui retirer tous les pouvoirs.
Attendez, il est évident que... Non mais je ne parle pas de cette situation en particulier. Je dis juste, en général, il est évident que on peut soupçonner que le débat est faussé. Hein, et, alors, c'est effectivement, en l'instance, le soupçon. Le soupçon, c'est que il y a un déséquilibre tel entre celui qui propose le débat, Emmanuel Macron, et ceux qui sont censés débattre, hein, donc les Français, je suppose donc les citoyens, à l'exclusion de ceux qui ne le sont pas sur le territoire français, que, bon, on peut se demander quel est le... Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce débat arrive en réponse, en fait, à eh bien, une augmentation de la conflictualité sociale. Et ça, ce sont, je trouve, de bonnes conditions. Là, je serais en désaccord avec ce que disait Raphaël tout à l'heure. C'est plutôt des bonnes conditions pour un débat. Parce que en effet, il y a un petit peu de rééquilibrage des rapports de force qui fait qu'on est un petit peu obligé d'écouter ce que les gens ont à dire, les raisons ou les déraisons qu'ils ont à faire valoir, et que peut-être ça aura des conséquences. Mais le critère essentiel pour moi de l'efficacité d'un débat, c'est quelqu'un change d'avis. Si quelqu'un change pas d'avis, bon, ça a un intérêt, mais ça n'a pas un intérêt pour les débattants.
Est-ce que il faut... Tout à fait d'accord pour dire que quelqu'un doit changer d'avis dans un débat. En revanche, que la conflictualité
pas forcément, Raphaël Antoven, c'est-à-dire on peut aussi, dans le cadre d'un débat, rester sur sa propre position, mais aussi profiter de ce débat pour peut-être mieux comprendre aussi ce que l'on pense soi-même.
Et ce que l'on pense soi-même et ce que l'autre peut penser. J'aime à citer cette phrase, elle est de Montaigne et on la retrouve partout. Enfin, on en retrouve la nécessité partout. Montaigne dit que, dans un chapitre sur l'art de la discussion, il dit qu'il se sent plus fier de la victoire qu'il remporte sur lui-même quand il s'incline devant les arguments de son adversaire que de la victoire qu'il remporte sur son adversaire à cause de sa faiblesse. Donc Montaigne voit dans cette épiphanie, dans la capacité qu'il a à changer d'opinion, justement, l'une des conditions du débat ou l'un des signes du débat. Patrice parle de déséquilibre. Je parlerai volontiers de dissymétrie entre le pouvoir et les gouvernés, c'est évident. Déséquilibre me semble, comment dire, c'est une façon de donner une lecture polémique de cette différence. La dissymétrie entre les tenants du débat, c'est-à-dire d'un côté les ministres et de l'autre côté ou les députés ou les maires, ou ce qu'on voudra, et de l'autre côté les gouvernés, les administrés, est un élément démocratique. Enfin, je veux dire, c'est indispensable. Qu'en démocratie, nous ayons des droits égaux, c'est une évidence. Que ces droits égaux soient des compétences égales, c'est un contresens. Donc c'est normal qu'il y ait une dissymétrie. Il est normal que les gens se saisissent de ces questions et fassent valoir leurs témoignages et entreprennent eux-mêmes de trouver des solutions avec les outils dont ils disposent. Mais il est normal qu'il y ait une forme de dissymétrie. Moi, ce qui me semble...
C'est la compétence qui vous semble justifier justement
cette
dissymétrie.
Je dis qu'en démocratie, c'est une des pathologies de la démocratie. La démocratie, c'est l'égalité des droits. Nous avons, sur le papier, des droits égaux. Et nous avons tendance, peut-être pas nous, mais d'autres ont tendance, et de façon générale en démocratie, à confondre l'égalité des droits avec l'équivalence des compétences. Or, c'est ça qui est une illusion. C'est une tentation tout à fait délétère. C'est une tentation marchande, en fait. C'est le citoyen consommateur qui critique son prof ou qui fait la morale à son médecin parce qu'il a passé 10 minutes sur Doctissimo. On croit qu'on a des compétences égales parce qu'on aurait des droits identiques. Et ça, je n'y crois pas. Ce qui complique le débat ici, juste très rapidement, Hervé, c'est, à mon sens, c'est le fait que les Gilets jaunes, pour l'heure, ont obtenu des tas de choses, mais beaucoup plus que s'ils avaient été syndiqués. Le gel des frais bancaires, la hausse du SMIC, la suppression de la hausse de la CSG sur des tas... Enfin, je veux dire, la défiscalisation des heures sup. Ils ont obtenu des tas de trucs. Il y a eu les taxations félones sur le carburant, etc. Ils ont obtenu des tas de choses. Plus ils obtenaient des choses, plus la colère augmentait. La colère qui est en œuvre ici n'est pas soluble dans l'obtention des demandes. Donc c'est qu'il y a autre chose derrière, et cette autre chose-là, qui est une détestation de principe du pouvoir et de ceux qui l'incarnent, est à mon avis l'adversaire du débat.
Cette autre chose, c'est peut-être aussi justement la possibilité de débattre, de parler, de s'exprimer. Sur la question des compétences, Patrice Maniglier, est-ce que vous considéreriez, alors peut-être contrairement à Raphaël Antoven, que tout le monde a vocation à parler au même niveau dans le cadre de ce grand débat national? Ou bien est-ce que, effectivement, en fonction de là où on parle, des compétences qu'on a pu accumuler, on a peut-être aussi davantage, comment dire, de légitimité à s'exprimer sur certains sujets?
Je pense que le problème de la compétence, ce mot est un peu équivoque. Si la compétence, ça veut dire une expertise, on n'est pas dans un système de gouvernement dans lequel ce sont les experts qui sont au pouvoir. ça ce serait une forme, disons, d'aristocratie de l'intellect. On est dans une démocratie, et l'hypothèse démocratique, comme le rappelait d'ailleurs Raphaël Antoine, c'est l'égalité de tous au moment de décider, de droit de vote en l'occurrence,
oui, bien sûr.
C'est-à-dire au moment de décider du contenu des politiques publiques. Donc de ce point de vue-là, je remarque que d'ailleurs le débat n'est pas entre l'exécutif et les Français, il est entre les Français, cadré par l'exécutif, avec l'engagement vague pris par le premier de tenir compte de ce qui ressortira de ce débat. Mais c'est pas un débat entre le pouvoir, entre les gouvernants et les gouvernés. C'est un débat entre les gouvernés. Et dans ce débat, oui, tout le monde doit être à égalité. Et ceux qui ont des compétences particulières à faire valoir, qu'ils les fassent valoir dans le cadre du débat et qu'ils arrivent à convaincre. Mais si on, par exemple, si on décide qu'un urbaniste a plus de temps de parole dans le cadre de ce débat, imaginons qu'il soit question de la ruralité et de l'articulation ville-campagne, que des gens, des habitants, bon ben on fait quelque chose, à mon avis, qui ne correspond pas à l'idée de débat. Alors, l'idée de compétence...
C'est là qu'on est en désaccord frontal, mais c'est bien, c'est bien.
Mais bon, ça n'empêche pas du tout que l'urbaniste soit là pour... Non, mais pourquoi ? Ben parce que le mot compétence...
Moi, l'avis d'un urbaniste sur la ville, pardon de vous interrompre, mais l'avis d'un urbaniste sur la ville m'intéresse plus que l'avis de quelqu'un dont on ne sait pas le métier.
Il y vit.
Bien sûr qu'il y vit, mais moi aussi je vis, je me fais soigner, mais si mon avis médical, si c'est moi qui vous soigne, vous allez mourir. Ça n'a pas de sens.
Bien sûr, mais l'avis du médecin, l'avis du patient est une chose qui évidemment...
Et voilà. Mais pas au même plan.
Pas au même plan, mais autant. Pas de la même manière, mais autant. Et par exemple, voilà, moi je suis un usager de l'eau, j'ai aucune compétence en plomberie, mais ça veut pas dire que s'il est question de l'organisation des tuyauteries, bah, j'aurai pas mon mot à dire. Hein. Et à vrai dire, autant que le plombier, et puis on doit discuter. Et ça c'est, Jacques Rancière, le philosophe, a quand même cette très belle thèse de l'axiome, comme il dit, de l'égalité des esprits. Hein. Ça c'est une très belle thèse, je trouve, parce qu'effectivement c'est une thèse radicalement démocratique, au sens où, finalement, on ne sait pas d'avance qu'est-ce qui vaut comme un savoir. Je veux dire, une expérience de quelque chose qui n'est pas forcément articulée sur un mode théorique, est aussi une compétence. Et quand il est question de la vie en commun, alors je pense qu'on doit mettre à égalité tout le monde.
Plutôt que de compétence, Raphaël Antoine, est-ce qu'il ne faudrait pas davantage parler de pertinence, c'est-à-dire d'avoir... quand on choisit de débattre avec une autre personne, alors là je sors un petit peu du grand débat national, mais de savoir si la personne qui va être amenée à débattre avec vous est la personne la plus pertinente. Est-ce que cette notion-là...
Je salue cette nuance, elle est trop fine pour moi d'ailleurs. En fait, je ne vois pas la différence entre compétence et pertinence ici. Prenons un exemple.
Je vais en prendre un, justement. On parle beaucoup du référendum d'initiative citoyenne. Mm-hmm. Depuis quelques semaines, un des théoriciens français, nous dit-on, de ce RIC, c'est Étienne Chouard. Étienne Chouard, qui est un enseignant dont on a beaucoup entendu parler en 2005 au moment du référendum constitutionnel européen, qui a un compagnonnage ou qui a eu un compagnonnage avec Alain Soral et qui fait qu'aujourd'hui, on s'interroge pour savoir est-ce qu'il faut l'inviter, par exemple, pour débattre du référendum d'initiative citoyenne ou pas. Il l'a été, par exemple, chez Frédéric Taddeï, dans son émission sur RT France.
En ce qui me concerne, la réponse est très simple. Je débat avec Étienne Chouard dans 10 jours. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est évident qu'il faut l'inviter. Il est non seulement pertinent, mais également, il a aussi un certain régime de compétences. Étienne Chouard se réfère, par exemple, à une lecture qui est la sienne de Condorcet pour justifier l'emploi du référendum d'initiative citoyenne. Pourquoi pas ? C'est vraiment intéressant. Il y a vraiment de quoi faire sur le référendum abrogatoire, le référendum révocatoire. C'est vraiment passionnant. C'est des bons sujets. Mais la situation dont je parle n'est pas celle d'Étienne Chouard, enseignant, qui a bossé, qui a les opinions qui sont les siennes. Il n'est pas en compagnonnage avec Soral. Il a dit que Soral était un résistant, formule qu'il a ensuite déclaré regretté, mais bon, laissons ça, on va pas lui faire un procès d'intention, surtout qu'il est pas là. En revanche, prenons par exemple le complotisme. Les attentats de Strasbourg. Au moment des attentats de Strasbourg, il y a des tas de gens qui disent, tiens, comme par hasard, il y a un attentat à Strasbourg au moment où c'est le chaos des gilets jaunes. Moi, on me la fait pas, je ne suis pas dupe, et je considère que c'est une manœuvre gouvernementale. On pense ça sans plus de preuves que sa propre certitude. Mais le droit que l'on a de le penser, et c'est là qu'il y a une confusion démocratique entre le droit et la compétence. Le droit que l'on a de penser cela ne donne pas à l'opinion de celui qui, sans aucune preuve, sans aucune autre certitude que sa propre certitude et le soutien des gens qui pensent comme lui, déclare que soudain le gouvernement a lui-même ordonné la mort de personnes pour détourner l'attention collective.
Ça ne lui donne pas le droit de dire quelque chose qui n'est pas vrai.
Ça lui donne le droit de le dire, ça donne le droit à d'autres de le contester, Le problème, c'est que quand on le conteste, l'opinion est indexée sur une identité et on est perçu immédiatement comme, je ne sais pas quoi, défenseur du pouvoir, réac, gardien de camp, on se fait traiter de tous les noms. Quand on ose dire que le complotisme de celui qui considère que les attentats de Strasbourg sont une manœuvre gouvernementale est une déclaration délétère et qui ne reçoit aucune preuve. Le simple fait de dire ça, cette seule objection, est vécue comme une offense par ceux à qui on l'adresse.
France Culture, du grain à moudre, Hervé Gardette.
Peut-on débattre sans limite? C'est la question du jour posée à deux philosophes, Raphaël Enthoven et Patrice Maniglier. Je vous laisse répondre à ce que vient de dire Raphaël Enthoven.
Oui, alors la question donc, disons, du droit de parler mélange différents niveaux. Ouais. Disons, la question renjoint celle de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est une relation entre l'État et les particuliers. C'est un principe dans lequel les États, certains États, se sont engagés pour dire « nous ne condamnerons personne pour les propos qu'ils tiennent, quels que soient ces propos ». Un principe, normalement, ne souffre que de très très rares exceptions. Bon. Le problème, c'est qu'on a dérivé de plus en plus dans une situation dans laquelle finalement, l'État considère qu'il est légitime pour lui de déclarer ce que les gens ont le droit de dire, parce que ça va blesser un tel, parce que c'est obscène, parce que, etc., voire de penser. Bon, par exemple, le délit d'apologie du terrorisme, et d'ailleurs, l'apologie des crimes et délits existe en droit, ce qui est une atteinte extrêmement grave à la liberté d'expression. Bon, et il y a beaucoup de choses comme ça.
Est-ce que, donc, par exemple, juste pour avoir un exemple, Patrice Maniglier, est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, vous considéreriez comme normal que l'on puisse, par exemple, débattre de la nécessité ou pas de l'action terroriste pour porter des revendications politiques?
Absolument. Prenons cet exemple. La question, c'est le cadre. C'est-à-dire que, bien sûr, dans la vie de tous les jours, dans les journaux que les gens peuvent fabriquer, etc., bah oui, je pense que les États doivent assurer une entière liberté d'expression, sans aucune restriction, sauf, et la Cour constitutionnelle américaine avait donné cet exemple, si vous êtes dans un théâtre en feu et que vous dites aux gens qui paniquent « allez à droite » alors que vous savez que c'est là qu'il y a l'incendie, alors vous êtes la cause d'un crime de manière immédiate. Donc ça vous donne une limite, si vous voulez, mais très précise. Le problème, alors, donc ça c'est entre nous, si vous voulez, l'État doit protéger la liberté d'expression. Le problème, c'est le débat, là, tel qu'il est, le grand débat national d'Emmanuel Macron, c'est une décision de l'État. Donc c'est un cadre étatique, si vous voulez.
Donc, il faut bien un cadre. Quand vous, vous êtes prof de philo, j'imagine que si vous faites débattre des étudiants, c'est bien vous qui leur donnez le cadre.
C'est un très bon exemple auquel je songe beaucoup dans cette affaire de débat, d'ailleurs, parce que effectivement,
non, en fait, quand il y a un débat, il sort de la classe.
Non, justement, moi, je fais en sorte que l'idée soit, on peut parler de tout à condition de s'écouter.
C'est cadré,
parler
ça.
De tout. Mais bien sûr, c'est cadré. Mais je ne critique pas du tout le fait que, simplement, je voulais juste dire que, si vous voulez, par exemple, que France Culture ne veuille pas inviter un tel ou un tel, je le comprends, c'est la liberté éditoriale de la chaîne, et c'est parfaitement normal. Encore que ce soit une chaîne publique, donc peut-être on peut discuter plus, mais pour les chaînes privées, il y a aucune, devrait y avoir aucune objection. En revanche, que l'État, si vous voulez, décide, c'est un tout petit peu plus compliqué. Parce que là, c'est en fait une manière d'user de l'autorité de l'État. Donc, c'est là où c'est un petit peu tendu.
Bah, l'État est dans la situation paradoxale, effectivement, de celui qui doit cadrer le débat. Moi, je suis assez d'accord avec Patrice sur le fait que... Enfin, je ne l'ai pas entendu dire ça et je ne veux pas parler à sa place, mais je crois, j'imagine, le connaissant un peu, que c'est ce qu'il pense, qu'on doit pouvoir vraiment débattre de tout, mais vraiment débattre de tout. Moi, par exemple, je n'ai aucune religion sur Dieudonné. J'arrive pas à savoir si on est plus ou moins libre dans un pays qui interdit ou qui autorise Dieudonné, en fait. Je ne sais pas.
Est-ce que je peux vous interrompre, Raphaël? Parce que je n'ai pas voulu dire qu'on pouvait débattre de tout dans ce sens-là. Je veux dire que l'État a le devoir de n'interdire aucun débat. Que vous, personnellement, ou qu'une chaîne, ou qu'un journal ne souhaite pas avoir certains débats, ça me paraît parfaitement légitime. Le problème, c'est le grand débat national. Étant donné qu'il est une initiative d'État, peut-il s'autoriser cette limitation du cadre du débat? Et ça me paraît plus compliqué, vous voyez, parce qu'on est dans une situation...
Si la limitation,
vous n'êtes pas l'État, donc vous avez effectivement le droit de débattre de tout et de cadrer comme vous voulez.
Mais c'est ce que je fais, d'ailleurs, au quotidien. On le fait tous. On discute, soit avec des élèves, soit avec des gens qui nous interpellent ou qu'on va interpellé, je veux dire, de ce point de vue.
Très présent sur Twitter,
le grand débat. Oui, parce que c'est quand même le grand débat, il a lieu quotidiennement dans cet espace-là. Sauf que ce qui est intéressant sur Twitter, justement, c'est de construire progressivement et patiemment la possibilité même d'un débat. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous interpelle violemment sur Twitter, et qu'au lieu soit de le bloquer, soit de lui répondre sur le même ton, vous expliquez que ses arguments relèvent de préjugés, vous montrez les préjugés qui sont à l'œuvre là-dedans, il arrive qu'on se retrouve dans une situation où soudain deux personnes en désaccord se serrent volontiers la main. C'est le seul but. Le but n'est pas la victoire d'une opinion sur une autre. Le but, nos opinions, la mienne, celle de Patrice, la vôtre, Hervé, n'ont aucun intérêt. Ce qui compte, c'est le droit collectif que nous avons d'en avoir une et de la possibilité de l'exercer. Patrice a dit tout à l'heure qu'il fallait que l'État garantisse la totalité des sujets. Enfin, comment dire, ne fixe aucune. Voilà, se donne pas pour cadre de ne donner aucun interdit.
Pour la liberté d'expression, bien sûr.
Si c'est le cas, à l'américaine, on se retrouve dans un univers procédurier où la parole est encore plus entravée, précisément, puisque c'est la société civile qui se substitue à l'État et par les procès qu'elle fait, fabrique justement de la censure un espace. En Amérique aujourd'hui, il est très difficile de parler. C'est plus difficile de s'exprimer dans un pays où officiellement on a le droit de tout dire que dans un pays où la loi verticalement continue de cadrer les choses et d'interdire certaines paroles plutôt que d'autres. Je ne sais pas ce que je préfère. Mais je dis que le danger d'un État qui n'intervient pas sur les sujets ou qui n'intervient pas sur le cadre lui-même, c'est qu'on débouche sur une censure
mais là,
horizontale.
C'est marrant parce qu'on a l'impression, à vous entendre, que, disons, vous inversez ce qui est, à mon avis, la position juste. C'est-à-dire que vous réclamez pour vous le droit de débattre de tout et de tout le monde, mais vous demandez à l'État, enfin, vous pensez que l'État a le droit de restreindre. Moi, je pense exactement l'inverse. Je pense que l'État ne doit rien interdire, mais que, en revanche, personnellement, nous sommes responsables des débats que nous jugeons pertinents et de ceux dans lesquels nous devons rentrer. Et donc, je pense que c'est exactement l'inverse. Le problème, c'est que entre nous, particuliers, et l'État, il y a ce grand débat national, qui est un petit peu équivoque.
Donc, c'est bien un débat entre les particuliers et l'État.
Voilà,
tout à l'heure, c'était un débat entre les particuliers et les particuliers ordonnés par l'État.
Organisé par l'État.
Ben oui, mais non. Voilà. On peut pas dire une chose et son contraire. Ce qui, tout à l'heure, était un débat entre deux instances organisées par l'État en situation de juge de paix devient ce que c'est. Un débat entre les gouvernants et les gouvernés.
C'est ce que j'ai.
Mais tout à l'heure, vous ne disiez pas
non,
ça.
Non, c'est pas du tout présenté comme ça. C'est présenté, et ça l'est, je crois, comme la volonté par l'État de mettre à disposition un cadre où les citoyens pourront débattre entre eux, à charge ensuite pour l'État de prendre en considération les résultats de ce débat ou pas.
Alors prenons pour exemple certaines des lignes rouges qui ont été fixées par le gouvernement par rapport à ce que pourrait donner soit ce débat, soit aussi, j'y reviens, ce référendum d'initiative citoyenne. On a vu, je le citais en début d'émission, la consultation du CESE qui s'est traduite, alors c'était un appel justement à des contributions pour savoir de quoi est-ce que vous avez envie de débattre. Ce qui est arrivé en tête, c'est la remise en cause de la loi Taubira du mariage pour tous. Alors bon, il se trouve qu'après enquête, et c'est pas très surprenant, ce sont des groupes quand même qui sont assez organisés,
qui ont un agenda très organisé, voilà. Sont parfaitement organisés. On n'est pas dans un univers représentatif.
Bien sûr.
On dit que Twitter n'est représentatif de la population
française. Mais le sera-t-on dans le cadre du grand débat national? On n'en est pas certain non plus. Mais en tout cas, les lignes rouges, c'était justement de dire, on ne va pas toucher à ce qui relève des valeurs fondamentales. Et les trois exemples qui sont donnés, c'est le mariage pour tous, c'est l'IVG. Et c'est la peine de mort qui est devenue un peu le point Godwin dès que l'on parle d'un débat largement ouvert. Ouais. Raphaël Entoven, est-ce que là, vous dites, oui, l'État a raison de mettre des limites au débat?
Pas du tout. Moi, je suis tout à fait pour qu'on débatte de la peine de mort. Ce sera l'occasion d'expliquer la différence entre la justice et la vengeance et de fournir une réponse argumentée à ceux qui, de bonne foi, considèrent que la vie d'un assassin ne vaut pas davantage que celle de sa victime.
Vous êtes d'accord, ça veut dire que vous êtes d'accord aussi pour en débattre avec quelqu'un qui est pour la peine
de mort. Je le fais quotidiennement, encore une fois. Et comme je suis tout à fait d'accord pour discuter de l'IVG et d'opposer la liberté à la vie et de voir si le choix de la vie n'est pas paradoxalement un choix mortifère dans le débat entre la liberté et la vie.
Alors, vous pareil, dites la même chose que Patrice Meneghi.
La seule différence, c'est que je ne vois pas dans ces débats la moindre valeur législative. C'est-à-dire que pour moi, il ne s'agit pas de produire des lois à partir de ces débats. Il s'agit d'organiser la possibilité pour les gens de se saisir de sujets, c'est-à-dire non pas seulement d'y faire valoir leurs opinions, leurs convictions, et de se mettre en chien de faïence face à l'autre en disant « bah moi, je considère que la peine de mort, il faut », et l'autre dira « mais non, la peine de mort, il faut pas ». Si vous voulez, le problème, ça n'est pas l'ampleur des sujets ou le spectre des sujets qui sont abordés. Le problème, c'est les conditions même du débat. Or, les conditions du débat ne sont pas respectées quand quelqu'un veut introduire la peine de mort dans les grands débats, uniquement pour faire avancer ses thèses. L'enjeu, c'est d'introduire la peine de mort pour entendre des arguments qui s'opposent à la peine de mort. Et c'est ça qui n'est pas acquis. C'est ça qui n'est pas pensé. Par exemple...
Oui, mais si on se dit dès le départ, voilà, on veut entendre des arguments qui s'opposent, mais de toute manière, ça ne changera rien. À quoi ça sert d'en débattre ?
Mais ça changera rien. C'est pas que ça changera rien, c'est que ce sont des majorités qui votent les lois, ce sont des députés, c'est le Parlement, c'est le président de la République qui... Enfin, je veux dire, il y a des institutions pour ça. Si demain matin, on a Marine Le Pen au pouvoir et qu'elle décide, par exemple, avec une majorité derrière elle, de rétablir la peine de mort en France, et si les députés sont majoritaires pour le faire, on rétablira la peine de mort en France. Les lois ne sont pas immuables. Personne ne dit que la peine de mort est à jamais. C'est comme l'IVG. Même si moi j'étais comme les insoumis partisans de l'inscrire dans la Constitution. Mais enfin ça c'est une autre histoire. Même là c'est pas inamovible. Mais un point, un exemple. Le RIC, ou le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Cette histoire est géniale, c'est passionnant. Parce que c'est effectivement, à bon droit, vécu par bien des gens comme un approfondissement de la démocratie. Mais quand on parle d'un référendum par exemple révocatoire... Le genre d'homme politique qu'on produit, quand on produit des hommes politiques dont l'impopularité vaut la perte de pouvoir, ce sont des hommes politiques falots, ce sont des girouettes, ce sont des gens qui changent d'avis parce qu'ils sont obsédés à l'idée de ne pas déplaire aux électeurs. Ce ne sont pas des gouvernants. Et donc, ce qui se vit comme un approfondissement de la démocratie débouche, à mon avis, sur un gouvernement impossible. Donc, on n'est pas là dans un approfondissement de la démocratie.
On pourrait se reprocher à la démocratie représentative également, c'est-à-dire de Absolument. Produire des personnels politiques qui ne...
Enfin, qui se désincarne et qui se détache de ses électeurs. Et c'est une objection très forte. Ce débat-là, il doit avoir lieu. C'est ça qui est important. Mais le débat est biaisé par le sentiment que quiconque s'oppose au RIC défendrait l'ordre établi et quiconque défend le RIC serait un vrai démocrate. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. C'est plus compliqué.
Patrice Maniglier.
Bah oui, mais c'est justement la fonction du débat de permettre précisément de négocier cette manière de se représenter les antagonismes. Donc, faut pas, encore une fois, en faire un cadre.
Remplacer l'antagonisme par une adversité, c'est ça que je voulais dire en fait.
Oui, et donc passer de l'adversité...
À la discussion
ou... Enfin, voilà. Mais non, ce que je veux dire, c'est on se braque sur ces histoires de peine de mort. Moi, ce qui me frappe, en tout cas dans le cadrage proposé, mais qui, je crois, au titre de la lettre d'Emmanuel Macron, n'est pas en fait limitatif, c'est juste une indication. Mais ce qui est, à mon avis, plutôt intéressant parmi les absences, c'est par exemple la réforme des retraites, qui va être votée, bon, et qui est complètement absente du débat. Donc là, le sentiment d'enfumage que beaucoup de gens ont est quand même assez légitime, parce que ça, c'est pas la peine de mort, l'IVG, etc. C'est des choses qui sont en cours, qui intéressent directement les revendications, disons, les plus audibles, en tout cas des Gilets jaunes, et qui sont mystérieusement exclues de l'agenda du débat. Donc si on veut vraiment parler des questions qui sont pas posées, il faudrait plutôt parler de celle-là que de la peine de mort. Bon.
Et après, comment est-ce que vous expliquez justement que cette question de la peine de mort, elle émerge à ce point-là? Alors sans doute pas la réalité du débat, mais comme une espèce d'épouvantail, de dire, bah voilà, attention, n'allons surtout pas de ce côté-là.
Bah parce que d'abord, je pense que les gens sont abstraits. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas les philosophes qui sont abstraits, c'est les gens qui sont abstraits. C'est-à-dire,
donc, d'accord,
la peine de mort paraît le symbole du truc dont il ne faudrait pas parler, alors que je suis parfaitement d'accord avec Raphaël Antoven. Bon, bah non, il faut en parler si on veut. Le problème, c'est quelle est la fonction de ce débat? La fonction de ce débat-là, c'est, comme vous l'avez dit, de produire, disons, un éclaircissement de la conscience collective afin d'éclairer le souverain. Voilà. Alors, est-ce que c'est la meilleure, on pourrait se demander, est-ce que c'est la meilleure formule pour éclairer le souverain? C'est pas sûr. Les cahiers de doléances, par exemple, qui ont été proposés par Bruno Latour, me paraîtraient en fait une meilleure formule. Mais bon, c'est la formule choisie. La question qui se pose, c'est celle effectivement de la représentativité. Comment éviter le genre de choses qui sont passées au CESE? Bon, une solution avait été proposée, qui manifestement n'a pas été retenue, mais qui, à mon avis, était intéressante, c'était le tirage au sort. Donc, tirer au sort, sur les listes électorales, un certain nombre de citoyens, comme pour les jurys populaires, et les gens devraient venir, en fait, débattre. Et ça, ce serait intéressant, parce qu'on réglerait ce problème de la représentativité.
Mais même chez les Gilets jaunes qui refusent la représentation, c'est une des forces et des faiblesses du mouvement, qui refusent d'être représentés par quelqu'un, que ce soit Maxime Nicole, Éric Drouet ou d'autres, bien sûr, ou Francis Lalanne, enfin je veux dire, même si les Gilets jaunes qui refusent d'être représentés par quelqu'un, les figures émergentes sont quand même des gens qui sont plus doués que les autres, soit pour mobiliser l'opinion, soit pour débattre, soit parce qu'ils sont éloquents, ou parce qu'ils savent parler, ou qu'ils savent plaire. Donc, tirer au sort, c'est méconnaître reconnaître le fait qu'au sein d'un débat, les groupes en présence ont plutôt envie d'envoyer leur champion.
Oui, c'est précisément comme le problème, c'est que le débat est généralement biaisé parce que, bon, de part, ceux qui vont y participer sont relativement déjà prédéfinis et qu'effectivement, il y a une grande inégalité des compétences de débattants. C'est pas une expression naturelle de la rationalité, le débat. C'est, comme je l'ai dit, un rituel, une forme, etc. Donc, le tirage au sort permettrait de le régler. Donc, plutôt que la question de ce qui est exclu des questions posées, il faudrait se demander, en fait, ce qui a été exclu des procédés. Et ça, le tirage au sort, à mon avis, était vraiment une très bonne idée qui, c'est malheureux qu'elle n'ait pas été retenue.
Je crois me souvenir, Patrice Maniglier, vous aviez suivi de près ce qui s'était passé il y a, alors ça fait quoi, 2 ans et demi maintenant, avec le mouvement Nuit Debout, justement, alors qui était un mouvement où on débattait énormément. Est-ce que ce sont des débats qui vous paraissaient, disons, utiles, mais peut-être que la question de l'utilité ne doit pas se poser quand on pense à débattre?
Alors c'est un bon exemple, sauf que c'était différent parce que l'Assemblée réunie devait se résoudre à prendre des décisions pour elle-même, d'une certaine manière, alors que là, bon, bah, les gens n'ont pas de décision à prendre, ils ont... D'ailleurs, encore une fois, on pourrait
se demander...
C'est
pas ce que dit Emmanuel Macron, vos propositions permettront de bâtir un nouveau contrat pour la nation, de structurer la succession du gouvernement, mais aussi les positions de la France au niveau européen et international.
Ségolène Royal appelle ça la démocratie participative. Ça consistait à recueillir les doléances de tout le monde et à les faire coïncider avec des décisions qu'on avait prises au préalable pour faire passer ça ensuite pour l'émanation du peuple. Dans les années 50, le Parti communiste chinois appelait ça la ligne de masse. On envoyait des représentants et des commissaires un peu partout pour récupérer les doléances qu'on faisait coïncider avec des décisions qui étaient prises par le pouvoir central et on faisait passer ça pour l'émanation du peuple. Ça, c'est une arnaque pour le coup. Ça, c'est une vraie arnaque. Et un débat peut permettre justement de faire saillir, de manifester ce genre d'arnaque. Patrice peut pas dire du bien de ses propres textes, donc moi, je peux le faire. Il a fait, dans les temps modernes, 25 pages sur Nuit Debout, sur l'expérience que vous aviez faite de Nuit Debout. On en avait parlé à l'époque. C'est passionnant. C'était passionnant parce que ça montrait comment vraiment une authentique entreprise démocratique, bah, malgré tout, échouait. Sur des points d'achoppement qui étaient très intéressants. Deux d'entre eux qu'on avait relevés à l'époque, c'était le cas Finkielkraut qui s'était fait jeter sur la base de ce qu'on avait cru penser de lui et non de ce qu'il avait écrit. Aucune des personnes qu'il a jeté de la place de la République n'avait lu une page de ses livres et l'autre, ou écouté une seule de ses émissions sur Culture. Et l'autre chose, c'était le fait que Nuit Debout devienne une marque. Soit devenu une marque.
Alors, c'était pas du tout mon problème. Moi, mon problème, c'était justement que.
À l'époque,
Annie
ça l'était,
Debout...
camarade. Ça a peut-être changé depuis, mais à l'époque, c'était désolant pour vous.
Franchement, désolant, non. Mais non, le problème de Nuit Debout, c'est que justement, il y avait il y avait 3 minutes de temps de parole pour chacun. C'était complètement fermé. Donc, ça devenait une sorte de petit cirque des opinions où chacun venait parler. Et en fait, il n'y avait pas de résolution collective. En vérité, il n'y avait pas de moment où on prenait des décisions précisément parce qu'on voulait éviter la question de la représentativité. Et donc, si une assemblée prenait une décision un jour, au nom de qui le faisait-elle, etc. Et donc, le problème, là, c'était le caractère trop fermé, trop formel du dispositif visant à assurer l'égalité des prises de parole. Et moi, j'étais contre parce que ça ne permettait pas justement la rencontre.
Parce que l'égalité des droits n'est pas l'équivalence des compétences.
Faut qu'il y ait des séquences de discussions authentiques, à vrai dire. Alors là, encore une fois, le tirage au sort aurait été une manière de le permettre. Mais je vais vous le dire, les cahiers de doléances, qui ont parfois mauvaise presse, étaient quand même une chose assez extraordinaire. Et Bruno Latour a bien raison de les remettre en avant. Parce que, figurez-vous que ces cahiers de doléances, qui étaient faits sur une base communale, à la fin des cahiers de doléances, il fallait l'unanimité des déclarants. Il fallait que tout le monde soit d'accord pour que ce soit ce cahier qu'on fasse remonter. Ce serait une formule intéressante. C'est-à-dire que, en effet, à ce moment-là, il faut qu'on arrive à une décision commune. Et là, il y a une force au débat, même si c'est consultatif. Il y a quand même une force parce qu'on n'est pas là simplement, puis on dit son truc, puis après on laisse l'autre dire son truc, puis on laisse l'autre dire son truc. On doit s'accorder ensemble.
Mais avec,
ça, ce serait
avec
fort.
Un tel système, Patrice, jamais, par exemple, la question de la peine de mort n'arrivera dans le débat. Si l'une des conditions, c'est l'unanimité des participants, on l'obtiendra jamais, ni sur l'ISF, ni sur l'IVG, ni sur le RIC, ni sur la peine de mort.
Ça peut être l'unanimité sur les questions, finalement, qui méritent d'être posées. Et je suis, enfin, qui ont émergé. On est tous d'accord sur le fait qu'on a posé ces questions, qu'on a abouti à ce type de remarques, même si, encore une fois, on n'a pas tranché un certain nombre de questions. Mais moi, personnellement, je pense que la question de la peine de mort est un peu hors propos. Et c'est une manière.
Sauf pour ceux qui la mettent aujourd'hui. Sauf pour ceux qui
je crois que
la
peine de mort est constitutionnalisée, non ? Enfin, si je ne m'abuse.
Oui, elle est dans la Constitution.
Donc, elle est dans la Constitution.
2007.
Donc, moi, je pense que si on veut exclure, par exemple, du RIC, qui
on peut changer la Constitution.
Problème, exactement. Mais alors là, pour le coup, les institutions sont assez précises pour le faire. Donc, si on veut exclure un certain nombre de choses, par exemple, du RIC, bah, il faut les constitutionnaliser, en effet. De ce point de vue-là, je suis d'accord.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette discussion, Patrice Maniglier, Raphaël Enthoven. Je ne sais pas à quoi aura servi ce débat.
Je veux laisser le mot de la fin à Patrice Maniglier, il a dit « je suis d'accord ».
Ah ouais. Alors est-ce que quand
j'ai pas encore changé d'avis.
Est-ce que oui, quand on dit dans un débat son interlocuteur qu'il est d'accord,
ça veut dire qu'il est d'accord pour être en désaccord avec lui. C'est la civilité, ça.
Ça c'est vrai.
Et ben voilà, ce sera la conclusion pour cette discussion. Merci en tout cas à tous les deux. La discussion qu'on pourra réécouter, télécharger sur notre site internet franceculture.fr. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richel, Leïla Saïdi, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Guillaume Laguigné. Mission réalisée par Peyre Legras avec à la prise de son Morgane Danan. Demain, y aura-t-il un procès de l'amiante? Ce sera la question que nous poserons dans Du Grain à Moudre. Dans un instant, vous allez retrouver Arnaud Laporte pour la dispute.